RCF. La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Sylvie Chanfraud,
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebars, et merci à Guilhem qui nous accompagne à la technique. Bonjour à tous, nous poursuivons notre parcours de lecture biblique en compagnie des anges. Voilà, ces porteurs de paroles qui sont présents à des moments décisifs. Et aujourd'hui, nous nous proposons de lire un petit passage qui se trouve au premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'anges en jeu, mais il est question quand même d'anges qui viennent servir Jésus. Alors, nous lisons le passage qui va du verset 9 au verset 15.
Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vient une voix : Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait : Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile.
Voilà ce court passage. Nous allons passer un petit peu de temps à regarder ces quelques versets. Donc, on nous dit qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Le passage précédent donc nous montrait Jean-Baptiste qui accueillait tout ce qui venait de Judée et de Jérusalem. Et ici, on nous dit qu'il y en a un qui vient de Galilée. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, de Galilée, Marie-Pierre ?
La Galilée, c'est le contraire de la Judée, là où se trouve le temple, le lieu de Dieu par excellence. Ici, on parle aussi des païens, de ceux qui ne sont pas des croyants.
Vous voulez dire que donc Jérusalem, c'est le centre de la vie d'Israël, hein, et donc ici, quand on parle de la Galilée, il s'agit de la Galilée, espace donc où se côtoient voilà toutes les nations, et donc pour dire que c'est les confins, la périphérie en fait, hein, de la terre d'Israël. Donc Jésus, lui, il vient de Nazareth en Galilée et se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Alors, on pourrait dire, se faire baptiser par Jean dans le Jourdain, ceux qui venaient auparavant se faire baptiser, ils avaient quand même des choses à se reprocher, non ? Ah, je sens que là, tout le monde est un peu perplexe. Jean, c'était pour le... Enfin, je ne sais pas, il venait... Pourquoi les gens qui venaient auprès de Jean le Baptiste ?
C'était pour le pardon des péchés.
Oui. Voilà, ils se faisaient baptiser donc confessant leurs péchés.
Oui, c'est ça, un geste de conversion.
Avec de l'eau. Et donc ici, Jésus vient là lui-même. A-t-il besoin lui, d'être en quelque sorte purifié de ses péchés.
Celui qui n'a pas péché, effectivement, va effectivement vivre cette démarche, en fait, de l'immersion et d'une forme de renaissance. Sans doute pour prendre la condition, justement, de tous ces gens qui font cette démarche de conversion. Je pense qu'ils voulaient se rapprocher, là aussi, de ce que vivaient les disciples de Jean.
Oui, et donc on pourrait dire que là, il est dans cette posture où il se met, lui, qui sera appelé dans un autre évangile l'agneau de Dieu, il vient pour porter en quelque sorte le péché du monde. Et donc au verset 10, à l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Voilà, donc c'est pas au moment où il se fait baptiser dans l'eau du Jourdain, c'est quand il remonte de l'eau qu'il y a les cieux qui s'ouvrent et cette voix qui vient du ciel.
Oui, on voit qu'il y a un mouvement, un double mouvement, un mouvement vers le haut, un mouvement vers le bas. Subitement, tout communique, le ciel et la terre communiquent enfin ensemble.
Donc cette remontée de l'eau de Jésus, elle vous semble symbolique déjà d'une sortie de quoi?
Ça symbolise déjà une résurrection, une sortie
du tombeau en quelque sorte, quoi, du tombeau des péchés. Donc voilà, c'est très beau. Et puis donc du coup, ce sont les cieux qui se déchirent. On nous dit ça désormais, il y a un espace qui s'ouvre. Hein, et puis l'esprit comme une colombe.
Comme une colombe, oui, puisque c'est, on dit pas sous la forme d'une colombe, on dit comme une colombe. Ça nous rappelle sans doute aussi la colombe du déluge, en fait, d'après le déluge, avec l'alliance entre Dieu et Noé. Et il y a peut-être de ça aussi dans cette image qu'on nous montre ici.
Oui, donc comme s'il s'agissait d'annoncer une terre nouvelle, quoi, quelque chose comme ça. Mais en fait, est-ce qu'on voit quelque chose? L'esprit, c'est du souffle, c'est du vent. En fait, est-ce que c'est visible en tant que tel?
Cette vision, justement, n'est pas de l'ordre du voir, des yeux, voilà. Mais de l'intériorité.
Voilà, donc en fait, c'est pas nécessairement perceptible à l'œil, hein, mais c'est quelque chose qui vient et qui ouvre à une vision tout autre, hein, pour voir les choses autrement. Mais et là, il y a aussi une voix surtout qui vient d'en haut. Et cette voix.
Oui, une voix qui dit « Tu es mon fils bien-aimé », ça veut dire que bon, ça s'adresse à Jésus, mais ça tout le monde peut l'entendre, donc tout le monde peut l'entendre pour lui.
Alors voilà, il y a cette double dimension, c'est vrai, mais en tout cas, sur ce corps-là qui sort de l'eau, il y a une voix d'un père, donc, du père, qui dit « Celui-ci est mon fils ». Bien-aimé. Et c'est même pas celui-ci, c'est une parole adressée. Hein. Ici, tu es mon fils bien-aimé. Donc une parole, voilà la vérité profonde de ce corps d'homme qui sort, qui remonte de l'eau comme une forme de résurrection, comme on dit. Et donc cette parole prononcée par le Père. Hein. Donc voilà, c'est la... La grâce du lien filial là, qui est manifesté, qui est... Voilà, donc on pourrait parler ici d'une manifestation
d'une
de
théophanie,
Dieu,
en fait.
Une forme de théophanie. Alors, aussitôt, verset 12, « Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Alors ça, donc, aussitôt... Vous avez vu la radicalité.
Oui. Premier effet de l'esprit, il pousse au désert, donc c'est exigeant.
Oui.
C'est exigeant. L'esprit, ça ne veut pas être quelque chose de tranquille. La condition de fils de Dieu ne va pas de soi. C'est pas du tout cuit, si je puis dire, trivialement.
Vous avez raison de souligner l'espèce de violence même qu'il y a dans l'expression, parce que mot à mot, on pourrait traduire l'esprit le jette, l'expulse pour qu'il aille au désert. Hein, donc, vous voyez, alors le désert, avec les 40 jours au désert.
Le lieu de l'épreuve, en fait, on sent bien que sa condition de fils reconnu, puisque c'est ce qu'on dit dans le verset précédent, l'oblige d'une certaine manière à passer par cette épreuve du désert. Il est jeté au désert, effectivement, pour éprouver cette condition de fils.
Voilà, et donc il y a aussi cette épreuve du désert, mais des 40 jours, est-ce que ça rappelle quelque chose peut-être aussi?
Ça représente aussi les 40 ans qu'ont passé le peuple après avoir quitté l'Égypte dans le désert. C'était aussi le temps de l'épreuve pour justement arriver dans la terre promise.
Après le passage de la mer Rouge, d'ailleurs, justement, puisqu'on va voir aussi cette traversée de l'eau, en fait. Hein.
Voilà, donc cette épreuve, donc, elle est très présentée de façon très rapide. Il fut éprouvé par Satan. Alors, Satan, c'est quoi pour vous?
L'accusateur, celui qui va effectivement mettre à l'épreuve, en fait, quelque part. C'est lui qui va combattre contre Dieu, en l'occurrence, là, à travers la personne du Christ.
Voilà, donc le Satan, la figure de Satan ici, qui vient là, dans le temps de l'épreuve, vous voyez bien que c'est en concurrence avec le Père, en quelque sorte. Donc c'est l'anti-père ou l'adversaire, en fait, hein, avec lequel il faut lutter, il faut batailler. Comment
il va troubler cette relation, finalement, qu'on a vue apparaître tout de suite, là, ou qu'on a pressentie. Il va essayer de la troubler, effectivement.
Donc, Satan, c'est peut-être, pour nous, une voie de mensonge qui pourrait venir couvrir l'autre voie qui a dit « Tu es mon fils, tu es mon enfant bien-aimé ». C'est cette voie-là qui peut venir par-dessus, qui peut sembler être de bonne compagnie, hein, mais, mais justement qui tourne du côté du mensonge. Ça ne sera pas la vérité de son être. Alors, l'histoire, il était avec les bêtes sauvages. Bon, on pourrait dire, dans le désert, il y a des bêtes sauvages, mais ça, on le sait. Hein, c'est pas les bêtes sauvages de l'Afrique, là, on imagine. Hein, donc, mais en même temps, qu'est-ce que ça nous dit, ça?
Ça nous dit aussi l'animalité de l'humanité, tout simplement.
Vous pouvez préciser un peu qu'est-ce que vous entendez par animalité?
C'est la chair qui n'est pas habitée par la parole.
Donc nous sommes des êtres de chair et souvent soumis à nos besoins, c'est ça?
Je pense que oui, c'est quelque chose qui nous habite et contre laquelle aussi nous devons lutter.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si on regarde la vie du monde...
Oui, Jésus est sur le fil du rasoir, là, entre eux, justement. Et ils doivent vivre ça en pleinement homme, donc pleinement dans cette humanité, comme dit Marie-Pierre. Et à la fois, bon, il a aussi cette dimension divine. Et il va falloir qu'il fasse avec ces deux, qu'il tienne ces deux bouts-là, qui est représenté donc à la fois par les bêtes sauvages et à la fois par les anges qui le servent. Donc, et ça préfigure, en fait, toute sa vie publique, tout ce qui va se passer par la suite dans le reste de l'évangile.
Et en même temps, enfin, je vais faire exprès d'évoquer cet adage « Qui veut faire l'ange fait la bête ». Peut-être que justement, peut-être que parfois, quand nous pensons que nous sommes de purs esprits, peut-être qu'on tombe encore plus bas. Finalement, on compte sur ces forces angéliques qui n'en sont pas. Hein. Donc, alors quand on dit que les anges le servaient, il ne faut pas imaginer des créatures ailées qui viennent là comme par miracle, comme par magie. Mais les anges, c'est quoi en fait?
C'est la parole de Dieu.
C'est de la parole. Hein, donc voilà. Mais donc on peut dire que la seule aide ou la seule compagnie qui puisse lui faire, comme disait Jean-Luc, tenir le chemin de l'épreuve.
Ce fil du rasoir, oui.
C'est donc la parole. Hein, la parole. Oui. Mais parce qu'il est, il est lui-même la parole de Dieu, mais il se reçoit du Père dans cette parole. Hein. Donc c'est ça qui nous montre que... Alors, oui, on pourrait dire que, ben, voilà, ici, on a quelqu'un qui est peut-être capable de tenir cette harmonie entre la chair et la parole. Hein. La parole qui habite la chair, hein. Le Verbe est venu dans notre monde, il a pris chair de notre humanité. Alors, je vais le laisser en quelque sorte là, avec les bêtes sauvages et les anges, et donc on va prendre une petite pause musicale. Nous lisons dans le chapitre 1er de l'évangile de Marc, ce passage qui est très court dans l'évangile de Marc, où Jésus est tenté par Satan dans le désert. Et donc, on en était resté à cette expression, donc il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et nous avons pris un peu de temps pour dire que là, nous avions véritablement un peu son chemin dans l'humanité, lui, le Fils de Dieu, reconnu Fils de Dieu par la parole du Père au moment de son baptême, hein, qui doit aussi affronter l'épreuve de la chair, puisque donc derrière la figure des animaux sauvages, nous avions dit que c'était peut-être tout ce que la chair pouvait porter de besoins, d'instincts, de voilà, nous connaissons bien quand même tous ces besoins de la chair, hein, donc ce qui peut détourner de cette parole de Dieu. Donc la parole ne se donne pas ailleurs que dans la chair. Hein, et ici, donc le chemin du Fils de Dieu, c'est d'être Fils de l'homme. Lui, il est la parole vivante, c'est-à-dire que c'est son corps de chair qui est pleinement habité par la parole. Donc quelque chose de très très beau, mais comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, hein, c'est comme une ligne de crête, hein, que, sur laquelle nous aurions du mal à nous tenir quand même. Hein, donc on peut évoquer Saint Paul qui dit que la chair est faible, hein, l'esprit est ardent, la chair est faible, mais voilà, tenir les deux ensemble, c'est pas toujours facile. Hein, donc, eh bien, nous poursuivons avec les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Alors là, on nous donne une petite circonstance après que Jean eût été livré. Alors qu'est-ce que c'est que cette livraison-là de Jean? Qu'est-ce que ça nous dit, le mot livraison, hein? Ça rappelle quelque chose quand même, non? Le mot livré, la livraison. Non? Judas. La figure de Judas qui livre Jésus. Ben, voilà, donc il y a une idée de... Ben, déjà, tout de suite, on nous montre comment le Satan, il est à l'œuvre. Puisque le Satan, parole mensongère, parole détournée, qui peut pas féconder la chair, eh ben, qui pousse à ce que ben, on livre, en quelque sorte, on vend. Hein, Jean, le prophète Jean. Jésus vint en Galilée. Alors, il venait de Galilée.
Et il retourne en Galilée. Il retourne vers la Galilée des nations, là où sont effectivement, comme disait Marie-Pierre tout à l'heure, les païens, les gens qui ne croient pas forcément, qui n'est pas le lieu de la religion, qui n'est pas le lieu religieux par excellence.
Voilà. Et donc c'est là qu'il commence à dire « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché ». Alors ça, c'est quelque chose qui peut sembler un peu énigmatique. Le temps est accompli, Marie-Pierre, ça vous dit quelque chose ?
Je pense que c'est aussi la rupture avec l'Ancien Testament. C'est quelque chose de neuf qui arrive à travers Jésus, justement, qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Donc ça nous dit toute sa mission, tout l'évangile que Marc va ensuite déployer.
Oui, et pourtant, est-ce que pour nous, nous avons l'impression que c'est fait une fois pour toutes? Sylvie, tout à l'heure, vous disiez que bah, c'est pas si évident que ça, quand même.
Ben non, le temps n'est, enfin, c'est pas fait une fois pour toutes. C'est sans arrêt qu'il faut résister, sans arrêt qu'il faut choisir entre les tentations humaines de la chair, et puis ben on a l'aide quand même des anges, de la parole. On est armé pour pouvoir résister à ça. C'est pas gagné une fois pour toutes.
Alors peut-être qu'il nous faudrait réfléchir un petit peu quand même à ce que c'est que ce temps là qui est déclaré comme accompli, mené à son accomplissement, le temps de la plénitude, parce que nous on pourrait penser que c'est le temps chronologique. Or l'avantage du grec, c'est qu'il a un autre mot. Il dit pas le mot chronos, le temps chronologique est accompli. Il emploie un autre terme qui veut dire en fait le temps favorable, le temps qui est le temps de Dieu peut-être. Ça change la donne peut-être, non, de dire cela. Que c'est pas le temps chronologique qui s'accomplit. Comment on peut comprendre ça? Ah là là, le temps. Ben, il y a peut-être comme l'idée de l'irruption d'un espace-temps autre.
Qui n'est pas celui des cycles,
dans
qui
le
n'est pas
temps
celui
des humains.
Voilà, qui n'est pas le temps chronologique des cycles qui s'accomplissent à travers les saisons, comme on peut le vivre nous dans notre chair. Mais là, c'est effectivement le temps de Dieu, c'est le temps d'accomplissement, c'est celui de Dieu en fait. Et on va voir, comme le disait tout à l'heure Sylvie, ce qui est résumé là d'une manière très synthétique dans Saint Marc en quelques versets, on va le retrouver tout au long de l'Évangile en fait, à travers les paraboles, à travers aussi la vie du Christ jusqu'à sa passion. Voilà, ça va être le risque de tentation n'est pas que qu'à ce moment-là du désert. On va peut-être le retrouver à Gethsémani d'ailleurs pour Jésus.
Oui, voilà. Et comme les évangiles racontent en condensé ce qui peut se déployer dans tout l'évangile, effectivement, Jésus, on peut dire, il a accompli aussi tout le temps de l'épreuve. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas se déployer dans son parcours d'humanité sur les routes de Palestine, et en particulier au moment de Gethsémani. Hein. Mais donc, c'est dit une fois pour toutes que puisqu'il est là, puisqu'il est venu dans la chair, puisqu'il a habité notre chair, eh bien le temps est accompli, c'est-à-dire que il n'y a plus à attendre une autre manifestation de ce que c'est que l'accomplissement pour les humains. Et l'expression suivante, elle dit ça aussi, le règne de Dieu s'est approché. Oui, le royaume de Dieu, pourquoi? Parce qu'il est là.
À travers Jésus.
À travers lui, le règne de Dieu est là, c'est-à-dire c'est tout une autre manière de vivre. Ce que nous pensions être la vie, c'est pas la vie, ce que nous pensions être la mort, c'est pas la mort. C'est donc toute une sorte de retournement,
ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans le terme de Jésus quand il va dire convertissez-vous,
ça veut dire donc voilà,
faites un retournement en fait, retournez-vous en fait.
Tournez-vous vers autre chose que ce que vous pensiez être le but ou l'essentiel de la vie, hein. Nous avons à nous détourner de ce que nous pensions être déjà notre corps, puisque désormais nous avons à accueillir un corps irrigué par la parole, c'est pas du tout la même chose. Et donc, si de temps en temps nous nous comportons en bête furieuse,
en bête sauvage,
en bête sauvage, ou si de temps en temps nous avons l'impression que nous sommes des anges, attention là. Hein, donc, c'est de tenir les deux
debout comme Jésus-Christ,
de tenir ensemble, mais de suivre cette trace quoi du Fils unique, puisqu'au fond cette théophanie, comme on a dit, c'est une manifestation d'un père qui dit tu es mon fils bien-aimé, et qui va ouvrir tout son chemin. Le chemin du fils, ça sera de manifester le père, hein, ça sera donc. Et le Satan, eh bien le Satan, il est toujours posté, parce que voilà, il est toujours tenté, nous sommes toujours tentés de nous fabriquer un autre père, un autre dieu, enfin de le fabriquer à notre image, comme on dit, hein. Donc au fond, est-ce que ça nous dit pas qu'on dit croyez à l'évangile? Croire à l'évangile, c'est pas si simple que ça.
Non.
Croyez à l'évangile, le chemin du croire, c'est un chemin d'épreuve. Croyez à l'évangile, mais on pourrait dire croyez à celui qui est
bonne nouvelle. Bah oui, et passé par cette épreuve, du coup.
Et quand on dit l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile, la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle qu'est Jésus-Christ venu, en quelque sorte, dans la vie des hommes. Donc, en fait, tout ce chemin-là, vous avez vu, très ramassé dans Marc, hein, le baptême, la tentation au désert, et puis le début de la proclamation, tout ça, ça va demander à se déployer, mais tout est mis là déjà. Tout est déjà là, en germe, pour tout le déploiement de l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle de sa marque, hein, que sa marque nous donne. Il y a un corps de chair habité par la parole et qui peut nous ouvrir un autre chemin pour ce que nous sommes nous-mêmes profondément dans la vérité peut-être enfouie au plus profond de nous et que nous ne connaissons pas. Merci d'avoir été avec nous sur ce chemin des Écritures.